Alors, bon dimanche à vous tous, bon matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment, muy buenos días, que le Seigneur les bendiga. Alors, ce matin, nous allons continuer notre série « Élargissez votre cœur » et nous avons choisi cela parce qu'en 2017, nous voulons être de ceux qui acceptent cette année que le Seigneur nous a donnée. Avec un but précis, maximiser le potentiel que nous avons en Jésus-Christ pour devenir les hommes et les femmes de Dieu que Dieu veut que nous fassions, que nous soyons, et aussi être à l'œuvre de Dieu pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, pour cela, ça nous prend un cœur qui est élargi. Et la semaine dernière, nous avons vu justement ce premier message dans cette série. Nous avons parlé justement de la foi sans limite. Et pourquoi la foi sans limite? Parce que nous voulons dire à Dieu qu'avec sa personne, avec ce qu'il est, et malgré tout ce qui peut nous arriver, nous allons progresser dans la foi parce que notre cœur est élargi. Alors, avec une foi sans limite, nous allons focaliser sur Dieu et non pas sur la problématique. Avec une foi sans limite, nous allons croire en les promesses de Dieu sans regarder les circonstances. Avec une foi sans limite, nous allons attendre justement le timing de Dieu. Et avec une foi sans limite, nous allons obéir à Dieu pas à pas. Alors ce matin, nous allons continuer la deuxième message dans la série et qui est intitulé « La grâce sans limite ». Et quelqu'un a dit que le mot « grâce » est un des plus beaux mots dans la langue française. C'est aussi dans la langue anglaise aussi. La grâce, quel de bons mots. On a parlé de la grâce infinie. Et si vous êtes ici ce matin, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous avez reçu cette grâce infinie, cette grâce horizontale, vertical plutôt, où est-ce que Dieu s'est approché de nous. Il nous a fait un beau cadeau, cette faveur imméritée de son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Mais ce matin, nous voulons parler de la grâce horizontale. La grâce horizontale parce que nous avons reçu cette grâce verticale et maintenant Dieu voudrait que nous soyons de ceux qui dispensent la grâce horizontale dans nos relations les uns avec les autres. Alors, la grâce sans limite. Et quand je faisais la recherche, j'ai constaté que le mot grâce, la racine du mot grâce, et aussi la racine du mot pardon, c'est la même racine. Alors, nous savons qu'une application pratique aussi dans le contexte de quelqu'un qui a été offensé, si on veut justement rétablir une relation brisée, mais la grâce rentre en ligne de compte. Alors ce matin, j'aimerais regarder quelques questions que j'aimerais qu'on prenne le temps d'y réfléchir plutôt, pardon, et aussi que le Seigneur nous parle, parce que quand j'ai regardé cela, il a fallu que je sonde mon cœur. Est-ce que nous libérons les gens ou est-ce que nous les retenons en otage? Je pars ici dans le contexte de quelqu'un qui a été offensé. Et est-ce que dans notre esprit, on est en train de remémorer justement l'offense? Ou est-ce que nous sommes capables de libérer les gens ou est-ce qu'on les retient otage? Est-ce que nous soulageons leur culpabilité ou augmentons-nous leur fardeau? Encourageons-nous les autres ou les décourageons-nous? Travaillons-nous dans le domaine de la construction ou de la démolition? Attirons-nous l'attention sur les défauts et faiblesses des gens ou sur leurs forces et leurs accomplissements? Bref, est-ce que nous accordons la grâce aux autres et surtout envers ceux et celles que nous trouvons peu attirants? Et vous savez, il y a une conséquence à toutes ces questions-là, moi, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et la conséquence, c'est que quand nous n'accordons pas la grâce, nous devenons des instruments, des pions entre les mains de l'ennemi pour accuser les autres. Et nous savons que Satan, la Bible nous dit, c'est l'accusateur. Et quelqu'un qui a un cœur rétréci, où la grâce de Dieu trouve peu de place, et quelqu'un qui sera justement un pion entre les mains de l'ennemi pour accuser les autres. Et c'est ça que nous ne voulons pas être, c'est ça que nous ne voulons pas faire. La deuxième chose aussi, la parole de Dieu nous en exhorte que nous devrions croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si je ne suis pas en train d'accorder la grâce aux autres, je ne suis pas en train de cheminer, de progresser justement dans ce chemin que le Seigneur nous a ouvert. Alors, très important d'accorder la grâce aux autres, et comme je dis, surtout envers ceux et celles que nous trouvons peu attirants. Alors la question se pose, comment faire cela? C'est bien beau de dire, ok, il faut être gracieux, il faut exercer la grâce, il faut dispenser la grâce, mais comment est-ce que nous allons faire cela dans le pratico-pratique? Alors pour cela, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Et nous allons regarder une histoire qui se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 9 et qui, à mon avis, illustre très bien cette notion de la grâce. La grâce horizontale, la grâce que nous voulons, sans limite, que nous voulons aussi accorder les uns aux autres. Alors 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Et avant de lire le texte, je vous mets dans le contexte. Nous sommes ici dans un moment dans la vie du roi David. Les guerres sont terminées. David a été pourchassé par Saül pendant de longues années, mais ça, c'est du passé. Après cela, parce que Saül a été est mort, il a perdu la vie sur les champs de bataille, son pire ennemi est mort. Ensuite, il est allé à la guerre, il a conquis des nations environnantes. Il y avait des Philistins, des Moabites et ainsi de suite. Alors, c'est un moment de paix. David est tranquille. Et aussi, on voit qu'il est dans sa maison. La maison de Saül est en ruine parce que David est maintenant venu au trône. Et c'est lui qui est le roi suprême en Israël. Il y avait eu une révolte avec un des fils de Saül pour donner qui voulait être roi. Mais tout cela est terminé. Alors on peut dire que David est tranquille, c'est le repos. Et là, il est assis sur son trône en roi. Alors on va lire le texte. David dit, verset 1er, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» À cause de Jonathan, plutôt, pardon. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, qu'on l'en fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute l'étain de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Et voilà cette belle histoire de la grâce sans limite. Je vous ai dit que David est un homme qui est assis sur le trône. Tout va bien dans son royaume. On aurait pu dire, mais écoute, c'est le temps maintenant de se la couler douce. Relax, prends ça cool. Mais on voit ici, dans un premier temps, que David est un homme qui part en mission. Je lis le texte et je vois à l'intérieur de cela un homme qui est agité. Et qu'est-ce qui l'alimente, c'est ce désir de trouver un nécessiteux, parce que dans son cœur, il brûle ce désir de faire du bien. Et nous lisons le texte ici, « Reste-t-il encore quelqu'un ?» Et regardez bien ce qu'il dit, « Pour que je lui fasse du bien. » « Reste-t-il encore quelqu'un que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?»« Car je veux faire du bien. » On a cette passion qui alimente cet homme, qui le gruge, qui le dévore, d'être quelqu'un qui fait du bien aux autres. Et c'est tellement important de saisir cela, parce qu'il y avait toutes les raisons pour être, bon, je suis roi, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai une armée, j'ai mes fils, j'ai mes enfants, mais il y a une chose qui brûle dans son cœur. Il veut faire du bien. David, il sait qu'il est, où est-ce qu'il est? Par la grâce de Dieu. Et il veut maintenant être un canal entre les mains du Seigneur pour justement étendre et dispenser cette grâce à l'égard des autres qui sont moins favorisés que lui. Alors, il cherche quelqu'un. Il est même prêt à aller dans la maison de son pire ennemi, la maison de Saül. S'il trouvait quelqu'un là qui en a besoin, il est prêt justement à y aller pour trouver une telle personne, pour user de la grâce de Dieu envers cette personne. Et vous savez, nous avons la même attitude aussi quand on regarde la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un qui était en mission. Quand il est venu ici-bas sur la terre, il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu, et quelqu'un l'a cité ce matin, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus était un homme qui est venu sur la terre et en mission, son cœur brûlé pour partager cette grâce de Dieu avec nous et avec ceux qui étaient nécessiteux, nous qui avions tellement besoin de la grâce de Dieu. Et parlons de la manière dont il allait faire, donner sa vie à la croix, il a dit ceci, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Et je me suis posé la question ce matin, et je vous pose la même question aussi. Est-ce que nous avons cette même désir, cette même passion d'être des instruments entre les mains de Dieu pour dispenser la grâce de Dieu, pour accorder la grâce de Dieu aux nécessiteux? Il y a des gens dans ce monde qui en ont besoin. Il y a des gens dans ce monde qui pourraient bénéficier de la grâce de Dieu. Et Dieu nous donne justement cette occasion par excellence d'être des instruments entre ses mains, d'être comme David. Y a-t-il quelqu'un? Seigneur, montre-le-moi. Je veux par ta grâce, être quelqu'un qui va accorder la grâce aux autres. Et j'espère que c'est votre désir ce matin. Et si ce n'est pas le cas, qu'on puisse demander au Seigneur qu'il nous donne justement cette passion, ce feu dans nos cœurs d'être ceux qui dispensent la grâce envers les autres. Alors, si on veut dispenser la grâce sans limite, il faut avoir cette idée de partir en mission, d'être quelqu'un qui a un but précis dans la vie, quelqu'un qui veut justement maximiser le potentiel que Dieu nous donne, de devenir l'homme et la femme de Dieu que Dieu veut que nous soyons, de devenir les instruments qui sont entre les mains du Seigneur pour dispenser la grâce de Dieu envers les autres. Deuxièmement, trouver la motivation. Si on veut accorder la grâce sans limite envers les autres, trouver la motivation pour regarder au-delà des défauts. Et pourquoi? Parce qu'on peut partir en mission, on peut avoir un cœur qui brûle, mais il peut aussi, quand on trouve cette personne, il peut y avoir des obstacles. Et nous pouvons regarder aux obstacles et que ça pourrait être justement quelque chose qui pourrait nous empêcher ou freiner notre élan si on focalise trop sur les obstacles. Et on voit ici, dans le cas de Mephibosheth, David, il pose des questions, il cherche, il était à la recherche. Et là, il y a ce serviteur qui arrive et qui donne la réponse. Et il me semble que le serviteur, la manière dont il y répond, semble vouloir justement freiner un peu l'enthousiasme de David. Là, David, il est bien enthousiasmé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais vous faire du bien, je vais vous faire du bien. Puis là, l'homme, il dit, oui, il y a quelqu'un. Mais c'est un boiteux, David. C'est un boiteux. Perdu des pieds. Certainement, tu ne veux pas justement t'intéresser à lui. Mais David dit, oh, yes, où est-il? Puis là, on voit aussi que c'est un nécessiteux. Il a dit, il est dans la maison de Makir à Lodébar. Et quand je lis le texte comme nous avons lu, c'est probablement un homme qui dépendait de la générosité des autres. Parce que dans le texte, nous voyons que David, il prend soin de dire qu'il va manger à ma table. Il va dire au serviteur, « Toi et tes fils, tu vas cultiver les terres pour que cet homme ait quoi du pain à manger. » Alors, si on lit entre les lignes, vu que c'est le fils de Jonathan, la maison de Saül est en ruine, comme j'ai dit, il est boiteux, il ne peut pas justement travailler pour pourvoir à ses besoins. Et sans doute, il est dans la maison de quelqu'un, puis il dépend de la générosité de la personne pour vivre, un nécessiteux. Et aussi, il vivait dans la crainte et dans la honte, parce qu'on dit à l'époque, quand il y avait des personnes, quand la dynastie changeait de main, mais la première chose que les rois faisaient, c'est d'y exterminer justement toute la progéniture des rois antérieurs pour que ces personnes-là ne soient des menaces pour le trône. Alors cet homme, sans doute, il était très craintif. Et aussi, il vivait dans la honte. Imaginez de penser que son grand-père, Saül, s'est suicidé. Son père, il avait perdu sa vie sur le champ de bataille. Et maintenant, le pire ennemi que Saül voyait David comme son pire ennemi, c'est lui qui est devenu le roi. Imagine la honte pour cet homme de vivre comme cela. Alors, voilà la personne qui se présente justement pour recevoir la grâce de David. Mais David, il ne laisse pas distraire par justement les obstacles. Il va dire, va le chercher. Va le chercher. J'ai entendu parler de lui, mais je veux le voir. Va le chercher. Et on amène Mephibosheth dans la présence de David. Alors, si on va partir en mission, on veut étendre la grâce de Dieu sans limite aux autres, avoir cette passion pour le faire, mais regarder au-delà, justement, des défauts. Et vous savez, je pense ici à la motivation. David va dire ceci, je veux lui faire du bien à cause de Jonathan. Pas à cause de lui, à cause de Jonathan. David avait une relation spéciale avec Jonathan. Ça, c'était son ami. La Bible nous dit que les deux, là, il y avait un amour qui surpassait justement l'amour des femmes. Ils étaient vraiment liés ensemble. Et j'imagine, Jonathan est mort en ce moment. Mais j'imagine que si Jonathan était vivant et il voit la manière dont David voulait s'occuper de son fils, Jonathan apprécierait vraiment ce geste que David voulait poser à l'égard de Mephibosheth. Alors, David, à cause du fait qu'il avait cette bonne relation avec Jonathan, a dit, il est boiteux, c'est un mendiant, lui, il se voit comme un chien mort, c'est pas grave, mais je détourne mes yeux de cela, je me souviens de mon ami Jonathan, c'est son fils, je veux lui faire du bien à cause de Jonathan. Maintenant, on fait l'application à nous. Nous partons en mission. Nous trouvons quelqu'un qui est nécessiteux. Nous voulons faire du bien à la personne. Mais il y a des obstacles. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvera pas en nous-mêmes cette motivation pour faire du bien aux autres. Pourquoi? Parce que il y a en nous ce qu'on appelle le pharisien, et je parle justement pour moi-même. Nous avons cette tendance, moi le premier, de regarder aux autres et de voir les défauts dans les personnes. David, il surmonte des obstacles. Cet homme arrive devant lui avec tous ses défauts, mais David dit non, je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Et dans cette mission, justement, d'être gracieux envers les autres, d'être gracieux envers ceux que nous trouvons peu attirants, d'être gracieux même envers ceux qui nous ont offensés. La problématique, c'est que nous avons cette tendance, justement, de focaliser sur les défauts de la personne. Ce n'est pas facile, je peux vous le dire. Et pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit que c'est pour nous et pour moi, c'est plus facile pour moi d'agir en pharisien et de voir la paille qui est dans l'œil de mon frère au lieu de voir le poutre qui est dans le mien. Alors, on ne peut pas regarder en nous, justement, pour cette motivation, pour trouver, justement, pour alimenter notre passion, pour faire du bien. Et quand on va se promener, si on veut vraiment prendre ça au sérieux et on veut être des instruments entre les mains du Seigneur, il va falloir qu'on trouve une motivation autre que ce qui est en nous, parce que ça va se heurter maintes et maintes fois contre justement cette idée de faire de la grâce. Il y a Amy Grant qui a dit ceci, dans la question je vous pose alors, où trouver la motivation pour regarder au-delà des défauts des autres? Et j'ai trouvé ce chant de Amy Grant. Elle a dit ceci, « Cause there's so much good in the worst of us, so much bad in the best of us, it never makes sense for any of us to criticize the rest of us. We'll just find what we're looking for. We'll just find it and so much more. » Et je vous donne la traduction française. Parce qu'il y a tellement de bien dans les pires parmi nous, tellement de mal dans les meilleurs parmi nous. Cela ne fait jamais de sens que quelqu'un commence à critiquer les autres. Nous trouverons exactement ce que nous cherchons. Nous le trouverons et bien plus. Et ça, c'est une vérité. Surtout dans le contexte de quelqu'un qui nous a offensés. Et on a cette conviction du Seigneur qu'on devrait être gracieux envers cette personne. C'est tellement vrai ce qu'elle a dit. Est-on pas en train de parler justement du salut ou le bien que Dieu va voir qu'il y a du bien et cette personne mérite le salut? Est-on en train de dire que même des personnes qu'on trouve peu attirant. En anglais, on dit « unlovely ». Les personnes qui ne nous attirent pas, même ces personnes-là, ils ont leur force, ils ont leur faiblesse. Et quand nous sommes sur la mission, justement, d'accorder, de dispenser la grâce, il faut avoir cette capacité de regarder au-delà des défauts. Parce que si on regarde la personne avec, justement, cette idée de trouver les défauts, on va les trouver. Si tu cherches des bibites en moi, tu vas en trouver parce que quoi? Moi, j'ai des forces et j'ai des faiblesses. Et si je vous regarde et je cherche chez vous les bibites, je vais les trouver parce que vous avez des forces et des faiblesses.
Alors, la grâce doit justement faire abstraction de cela. Nous ne pouvons pas justement se concentrer sur la force ou la faiblesse pour dire ça me motive justement pour faire du bien. Parce que, comme on l'a dit, même dans les meilleurs parmi nous, cette personne a des bibites. Et même dans les pires, cette personne-là, il y a ses forces. Alors, où trouver cette motivation-là? Où trouver cette motivation pour contrer le pharisien qui est en nous, qui est toujours en train de regarder et de juger et de condamner et de mesurer la personne avec ma mesure et dire eh, « c'est correct » ou « ça, c'est pas correct ». Est-ce que c'est possible que nous ayons justement cette motivation à cause de Jésus? À cause de Jésus. De voir la personne peu attirant. Peut-être la personne qui nous a causé du tort. Et de dire, Jésus apprécierait que j'use de grâce envers cette personne. Parce que, et je parle ici dans le contexte d'une église, dans le contexte d'une frère, d'une sœur, dans le contexte où est-ce que cette personne a besoin de recevoir la grâce, c'est pas d'être jugé ou de condamner, et de dire Jésus apprécierait, parce que cette personne-là est un enfant de Dieu. Et si je dispense la grâce de Dieu envers cette personne-là, Jésus l'apprécierait. Et c'est ce qu'il dit dans le texte. À toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Oh, comment c'est important. Ça, c'est la motivation qui nous permet justement de regarder au-delà des défauts de la personne. Ça, c'est la motivation qui nous permet justement de mettre un clou dans le cercueil du pharisien et de dire, je le ferai à cause de Jésus. Et je ne suis pas en train de parler ici de péché. Parce que quand la faiblesse conduit au péché, la Bible est très claire là-dessus. On ne va pas être gracieux dans le sens de dire qu'on ferme les yeux, on l'accepte. La Bible nous parle plutôt d'un processus. Si ton frère a péché, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas le confronter avec son péché et on sait que la suite des choses, s'il se repent, tu as gagné ton frère et s'il ne se repent pas, tu prends des témoins et ainsi de suite. Ce n'est pas dans ce contexte. Je parle de nos relations avec les uns, avec les autres. Les relations où est-ce que le Seigneur nous demande d'être gracieux les uns envers les autres. Les relations dans l'Église entre frères et sœurs, dans le couple entre mari et femme, nous sommes tous des boiteux. Et nous avons besoin jour après jour d'être gracieux les uns envers les autres. Et de dire, je le ferai à cause de Jésus. Voilà comment est-ce qu'on peut appliquer la grâce sans limite. Et nous avons un bon exemple ici de la femme de Billy Graham. Et elle a dit, c'est mon devoir d'aimer Billy. C'est le devoir de Dieu de le rendre parfait. Je trouvais ça très, très bien. Alors, quand on veut user de la grâce, on peut justement regarder au-dessus des défauts de la personne et être gracieux à leur égard. Alors, troisièmement, si on veut être de ceux qui usent de la grâce sans limite, poser un geste magnanime pour relever, restaurer, encourager. Tellement important. Combien de personnes, à cause des relations brisées, se sentent rejetées, se sentent abaissées, se sentent découragées? Et nous avons le potentiel, ayant reçu la grâce verticale de Dieu, d'être de ceux qui donnent la grâce horizontale. En anglais, on dit « reach up, mais reach down ». Quelqu'un qui va se pencher vers le nécessiteur et de le relever pour l'encourager, motivé par cet amour qui est en eux à cause de Jésus, et cet désir, cette passion d'être quelqu'un qui aide les autres. Et je pense ici, on voit ici avec Mephibosheth, David, dans un geste extraordinaire, va dire ceci, je te rendrai toutes les terres de Saül. Tu mangeras à ma table et tu vas être là comme l'un des fils du roi. » Est-ce qu'il méritait cela, Mephibosheth? Pas du tout. David va le prendre. Il dit, écoute, je pourvois à tes besoins. Tu vas même venir dans mon palais. Et malgré le fait que tu es boiteux, et ainsi de suite, tu vas être comme un de mes fils. De la honte à l'honneur. Quel geste pour relever, pour restaurer, pour encourager Mephibosheth. Et vous savez, Dieu, à notre égard, il a fait la même chose. La Bible nous dit que quand nous étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu nous a relevés. Quand nous étions dans le péché, mort dans nos offenses et dans nos péchés, Dieu, dans un geste extraordinaire, il aurait pu dire juste, je vous pardonne, puis c'est tout. Mais non, non, ce n'est pas suffisant. Il nous fait lève ensemble, rester ensemble avec Jésus-Christ, et en plus de cela, il nous fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. N'est-ce pas extraordinaire? De nous redonner justement cette identité, tu es mon fils, je t'aime, tu vas être avec moi pour toute l'éternité. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que Dieu a été gracieux à notre égard. Je vous raconte ici l'histoire d'un nommé Woody Hayes. C'était un coach du football collégial de l'État de Ohio aux États-Unis, un ex-militaire. Et du fait qu'il était un ex-militaire, il avait pris pour modèle le général George Patton. Alors, il exerçait une discipline sévère à l'égard de ses joueurs. Il était très, très difficile à lui plaire. Peu de tolérance pour l'échec. Il avait la réputation aussi d'être un bagarreur. Et souvent, lors des matchs de football, il piquait des crises, il frappait des caméramans, des joueurs, des arbitres. En tout cas, il a payé des amendes maintes et maintes fois. Mais pendant sa carrière, il avait amassé un nombre incroyable de victoires. Mais il a aussi fait beaucoup d'ennemis à cause justement de son attitude envers les joueurs, parmi les joueurs, des parents, des fans, puis des reporters. On nous dit qu'en 1978, lors d'un final du Gator Bowl, ce sont des matchs de football très prisés aux États-Unis, un joueur de l'équipe opposante a intercepté un lancer de son équipe et a terminé sa course près du coach Hayes. Et c'était dans les dernières minutes du match et il perdait par 2 points. Alors, c'est sûr que le coach n'était pas content. Alors, furieux, Woody Hayes a frappé le jeune qui a failli perdre son casque. Et tout cela a été filmé par la chaîne nationale de télévision. Le lendemain, il a été convoqué devant la direction de l'université et puis il a été viré. Il est en congédié. Mais pendant les semaines et les semaines, sans pitié, les médias déchargeaient leur bile sur le coach humilié qui s'était réfugié dans le silence et la honte derrière les portes closes. À l'époque, il y avait un autre coach, son nom c'est Tom Landry, qui était le célèbre coach du Cowboys de Dallas. C'était un grand homme de Dieu en passant, un homme de Dieu. Lui il avait été invité à un banquet prestigieux à New York. Et il pouvait être invité accompagné par un invité d'honneur. Ça, c'était justement le privilège qu'il avait. Et normalement, il aurait amené avec lui sa femme. Mais il a amené Woody Hayes avec lui. Et son geste gracieux a soulevé Hayes de sa honte. a réduit au silence ses bourreaux. Et là, il y a Chuck Swindoll, quelques-uns de vous vous connaissez, il a demandé justement à Tom Landry, mais pourquoi tu as fait cela? Et voici sa réponse. J'ai pensé que puisque tout le monde tapait dessus, Woody avait besoin de quelqu'un qui le serrait dans ses bras et qui lui dirait qu'il était encore aimé. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Poser un geste magnanime pour encourager, pour relever, pour encourager. Et finalement, si on veut être de ceux qui accordent la grâce sans limite, adopter la mentalité d'un marathonien pour persévérer avec les boiteux. David va dire ceci, « Tu mangeras toujours à ma table, et Mephibosheth mangera toujours à ma table. Il mangeait toujours à la table du roi, il était boiteux des deux pieds. » Et on pourrait peut-être penser, « Mais écoute, c'est redondant. » On a dit qu'il était perdu des pieds au début, puis là, à la fin, il est boiteux. On sait ça, il déjà. Mais je pense que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, va nous faire remarquer, là. Quand vous voulez, justement, dispenser la grâce, et comme je dis, qu'il peut y avoir des obstacles qui se trouvent dans la personne qui pouvaient faire en sorte que vous ayez cette difficulté à surmonter cela, alors, il faut toujours avoir cette idée que ça va être de longue haleine. Persévérer. Mephibosheth trouvait toujours grâce aux yeux de David. David a dit, tu vas être à ma table. Tu vas manger toujours à ma table. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il était toujours boiteux. Alors, cela serait toujours évident. David pourrait toujours voir cet homme-là. Et quand on veut justement être en contact avec les autres, en une relation horizontale envers les autres. N'oubliez pas que ça prend justement la persévérance. Parce que les défauts, ils ne vont pas justement disparaître du jour au lendemain. Et il faut être capable de surmonter cela, toujours grâce aux yeux de David. Alors, je vois aussi le parallèle avec nous. Dieu, tel un marathonien, persévère avec nous, car nous trouverons toujours grâce à ses yeux. Et ça, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Et combien nous avons besoin, vous et moi, chers frères et sœurs, de la grâce de Dieu à chaque jour. Et malgré nos défauts, nos faiblesses, nos chutes, le Seigneur a dit ceci, Dieu le Père a dit ceci dans Hébreux 13, 5, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu a cette mentalité d'un marathonien que je persévère avec ces personnes et ma grâce sera toujours disponible. Qu'importe ce qu'ils font, il n'excuse pas le péché, il ne ferme pas ses yeux à nos péchés, mais il est toujours gracieux à notre égard. Nous allons trouver et nous trouverons toujours grâce à ses yeux. Tellement important. Et non seulement Dieu le Père, mais Jésus a dit ceci, « Voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. » Jésus persévère avec nous. Comme je dis, malgré nos bébites, malgré nos défauts, malgré nos imperfections, il dit, « je suis là pour vous, je suis là, je suis là, je suis là, encouragé. » Et le Saint-Esprit va dire ceci, le Seigneur va dire ceci à propos du Saint-Esprit, « Le Père vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Alors, le Fils, le Père et le Saint-Esprit cheminent avec nous, justement. Et nous trouvons toujours grâce aux yeux de Dieu. Et c'est la même chose aussi dans notre relation les uns avec les autres, que les personnes avec qui nous avons justement ces relations devraient trouver grâce, toujours grâce à nos yeux. Adopter un esprit marathonien. Alors, la question maintenant qui se pose, que je dois vous poser, que je me pose. On sait quoi faire, n'est-ce pas? Avoir cette passion, partir en mission, trouver la motivation de ne pas regarder aux défauts de quelqu'un, poser un geste, puis adopter une mentalité. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'individu. Et je vais vous donner un peu de devoir ce matin. Pouvez-vous penser à quelqu'un dans votre entourage, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, dans votre couple, je ne sais pas où. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait justement apprécier et bénéficier d'un geste de grâce de votre part? Et si vous ne pouvez pas penser tout de suite à une personne, mais vous pouvez demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi quelqu'un, un peu comme Woody Hayes. Il doit y avoir quelqu'un quelque part qui pourrait justement bénéficier d'un geste gracieux. Malgré le défaut de la personne, malgré le fait que vous pouvez trouver cette personne peu attirante, ce n'est pas grave. Soyez comme David, quelqu'un qui cherche, qui a cette passion, qui est motivé, qui ne regarde pas aux défauts, et dire au Seigneur, je veux être un canal, justement, entre tes mains, pour donner la grâce aux autres. Alors, est-ce que nous accordons la grâce aux autres? Ce serait tellement bien dans notre couple, parmi les frères et les sœurs dans l'Église. C'est une chose qui est extraordinaire, la grâce de Dieu. Et vous savez, j'ai remarqué aussi à la fin, on a vu que Mephibosheth demeurait à Jérusalem. Et je termine avec ceci. Pourquoi est-ce qu'il est resté? Oh, il aurait pu dire, écoute, maintenant je vais avoir des terres, je vais avoir une maison, je peux aller à Jérusalem, je vais avoir un repas gratuit. Mais la parole de Dieu, il est demeuré à Jérusalem. Et je vois ici que la grâce a la capacité, justement, en parler justement de nous autres, mais l'effet que la grâce peut avoir sur la personne qui reçoit de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il voulait juste avoir un repas gratis, là. Parce que plus tard dans l'histoire, on va voir que ce même serviteur Siba, il va donner un mauvais rapport à propos de Mephibosheth quand David il fuyait son fils Absalom. Et David, dans un moment, il réfléchit, il a dit, « OK, je prends toutes les terres que je t'ai données, puis il va donner ça à Siba. » Et là, il a demandé à Mephibosheth, « Pourquoi tu n'es pas venu avec moi quand je fuyais mon fils? » Mais il a dit, « Écoute, je voulais le faire, mais mon serviteur, justement, il n'était pas capable. » Puis là, David a dit, « Mais écoute, je lui ai donné toutes les terres. » Il dit, « C'est pas grave. Ce qui importe, c'est que mon roi, maintenant, est en bonne santé, il est revenu, il a repris le trône, et c'est ça, le roi, c'est comme un ange à mes yeux. Et je vois que cet homme ici, maintenant, est à Jérusalem, auprès de David, parce qu'il a été touché par ce geste de grâce. Le changement dans sa vie, dans son attitude, et vous serez surpris de constater jusqu'à quel point cette grâce, cette faveur imméritée que vous démontrez aux autres, pour avoir un impact et changer justement la vie des personnes qui sont des récipiendaires. Alors, accordez-vous la grâce aux autres et que le Seigneur nous donne justement cette passion, cette mentalité, tout ce qui est nécessaire d'être de ceux qui accordent la grâce aux autres. Et finalement, je termine la semaine prochaine. C'est notre frère Adama qui va nous entretenir là-dessus. On va parler de ce troisième message, la compassion sans limite. On a vu la foi sans limite, reach up. On a vu la grâce sans limite, reach down, relever quelqu'un. Mais on va parler aussi maintenant de la compassion, reach out. Il y a des gens qui meurent dans leur péché. Il y a des gens qui ont désespérément besoin de l'Évangile. Est-ce que nous, en tant qu'Église, reach out avec l'Évangile, d'aller chercher, et que le Seigneur aussi ait notre contexte de demander cette passion pour les âmes perdues. Moi, je n'ai pas, je demande au Seigneur qu'il me donne, mais j'espère aussi que le Seigneur va nous raviver cette feu, et que cette Église soit une Église qui brûle la grâce parmi les frères et les sœurs, mais la compassion aussi pour ceux qui sont à l'extérieur. Je ne veux pas voler de punch d'Adama, mais ça, c'est son message. Il va nous parler de cela la semaine prochaine. Et comment maintenant, de façon pratique, on peut aller accorder la compassion aux autres. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci, merci d'être ce Dieu tellement gracieux. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous dépasse, qui nous épate. Et ta parole nous dit aussi que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Seigneur, accorde-nous justement ta bonté, ta faveur. Seigneur, il y a certainement quelqu'un dans notre entourage, quelqu'un qui peut-être se sent humilié, rejeté. Que nous pouvons, Seigneur, aujourd'hui, demain, dans les semaines à venir, Seigneur, que nous pouvons aller vers cette personne et démontrer justement cette grâce que nous avons reçue venant de ta part. Oh Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui vont justement aller envers les autres. Tendre la main, Seigneur, et relever, restaurer, encourager. Fais cela, Seigneur, pour ta gloire et à cause de qui tu es. Et si, Seigneur, il y a quelques-uns parmi nous ce matin qui ne te connaissent pas, notre désir, notre cri vers toi, Seigneur, que tu sois miséricordieux et gracieux à leur égard, et que tu te révèles, Seigneur, afin que ces personnes puissent venir à te connaître. On demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.